Bonsoir, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans Démo d'ici, Démo d'ailleurs. Et si tout ceci n'était qu'une suite de rencontres, Démo d'ici, Démo d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou de laisser les volets fermés. Démo d'ici, Démo d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il a ? Votre couteau.
Comment ?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre ?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale ». Et dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'était que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teintes cadavériques. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. « Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. » Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer, dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressaient, pénétrés d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, il griffonnait désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres centrale s'attachait toujours à faire faire à ses nouveaux étudiants sous sa conduite personnelle le tour des divers services. « Simplement pour vous donner une idée d'ensemble », leur expliquait-il. Car il fallait, bien entendu, qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment. Et cependant, qu'ils en eussent le moins possible si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société. Demain, ajoutait-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là était un privilège. De la source même, droit au cahier de notes. Les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenait tout juste à recouvrir lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50, 55? C'était difficile à dire. Et au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 de NF, il ne venait à l'idée de personne de la poser. « Je vais commencer par le commencement, » dit le DIC, et les étudiants les plus ailés notèrent son intention dans leur cahier. « Commencer au commencement. »« Ceci, » il agita la main, « ce sont les couveuses. » Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres et pleins de tubes à essai numérotés. « L'approvisionnement d'ovules pour la semaine, maintenu, explica-t-il, à la température du sang, tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardées à 35 degrés au lieu de 37. La pleine température du sang stérilise. Des béliers enveloppés de thermogènes ne procréent pas d'agneaux. » Toujours appuyés contre les couveuses, il leur servit, tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale. Cette opération subie volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montant à 6 mois d'appointement. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement. Passa des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optima, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité, et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai, comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie. Comment les ovules qu'elle contenait étaient examinées au point de vue des caractères anormaux, comptées et transférées dans un récipient poreux. Comment, et il les emmena alors voir cette opération, ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement. À la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il. Et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau. Comment, s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois, et si c'était nécessaire, une troisième. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alpha et les bêta demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gamma, les delta et les epsilon en étaient extraits au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé Bokanovski. Au procédé Bokanovski, répéta le directeur. Et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. De 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains, là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Le progrès. La bokanovskification, dit le DIC pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts de développement. Nous enrayons la croissance normale et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant. Les crayons s'affairèrent. Il tendit le bras. Sur un transporteur à mouvement très lent, un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique. Un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement de machine. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliquait-il. Soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait, des autres, les moins influencés, se divisaient en deux. La plupart proliféraient en 4 bourgeons, quelques-uns en 8. Tous étaient renvoyés aux couveuses où les bourgeons commençaient à se développer. Puis, au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid. Au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau et, ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix, bourgeon des bourgeons des bourgeons, tout nouvel arrêt de croissance étant généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons, compris entre 8 et 96. Ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigres groupes de 2 ou 3, comme aux jours anciens de reproduction vivipare, alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines d'un coup. Par vingtaines, répéta le directeur, et il écarta les bras, comme s'il faisait des libéralités à une foule, par vingtaines. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi résidait l'avantage. « Mon bon ami !» Le directeur se tourna vivement vers lui. « Vous ne voyez donc pas ? Vous ne voyez pas ?» Il leva la main. Il prit une expression solennelle. Le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. Instrument majeur de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupe uniforme, tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf Bokanovskifié. 96 jumeaux identiques faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où on va. Pour la première fois dans l'histoire, il cita la devise planétaire. Communauté, identité, stabilité. Des mots grandioses. Si nous pouvions Bokanovskifier indéfiniment, tout le problème serait résolu. Résolu par des gammas du type normal, des deltas invariables, des epsilons uniformes, des millions de jumeaux identiques, le principe de la production en série appliqué enfin à la biologie.
What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us.
Ils laissèrent M. Foster dans la salle de décantation. Le DIC et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au cinquième étage. Pouponnière, salle de conditionnement néo-pavlovien, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur ouvrit une porte. Ils se trouvèrent dans une vaste pièce vide, très claire et ensoleillée, car toute la paroi exposée au sud ne formait qu'une fenêtre. Une demi-douzaine d'infirmières, vêtues des pantalons et des jaquettes d'uniforme réglementaire en toile blanche de viscose, les cheveux aseptiquement cachés sous des bonnets blancs, étaient occupées à disposer sur le plancher des vases de roses, suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. De grands vases, garnis de fleurs bien serrées, des milliers de pétales, pleinement épanouis et d'une douceur soyeuse, semblables aux joues d'innombrables petits chérubins, mais de chérubins qui, dans cette lumière brillante, n'étaient pas exclusivement roses et ariens, mais aussi lumineusement chinois, mexicains aussi, apoplectiques aussi d'avoir trop soufflé dans des trompettes célestes, pâles comme la mort aussi, pâle de la blancheur posthume du marbre. Les infirmières se raidirent au garde-à-vous à l'entrée du DIC. « Installez les livres !» dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés, une rangée d'in-quarto enfantin, ouvert d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. « À présent, faites entrer les enfants !» Elles sortirent en hâte de la pièce, et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse chargée sur chacun de ses quatre rayons en toile métallique de bébés de 8 mois, tous exactement pareils. Un groupe de Bokanovski s'était manifeste. Et tous, puisqu'ils appartenaient à la caste Delta, vêtus de kaki. Posez-les par terre. On déchargea les enfants. À présent, tournez-les de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres. Tournés, les bébés firent immédiatement silence, puis ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies et si vives sur les pages blanches. Tandis qu'ils s'en approchaient, le soleil se dégagea d'une éclipse momentanée où l'avait maintenu un nuage. Les roses flamboyèrent comme sous l'effet d'une passion interne soudaine. Une énergie nouvelle et profonde parut se répandre sur les pages luisantes des livres. Des rangs des bébés rampant à quatre pattes s'élevaient de petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflottements de plaisir. Le directeur se frotta les mains. « Excellent, dit-il. On n'aurait guère fait mieux si ça avait été arrangé tout exprès. » Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés, puis « Observez bien, dit-il. » Et levant la main, il donna le signal. L'infirmière-chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante. Une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leur visage était distordu de terreur. « Et maintenant, cria le directeur, car le bruit était assourdissant, maintenant nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Il agita de nouveau la main et l'infirmière-chef abaissa un second levier. Les cris des enfants changèrent soudain de ton. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque dément dans les hurlements perçants et spasmodiques qu'ils lancèrent alors. Leurs petits corps se contractaient et se raidissaient, leurs membres s'agitaient en mouvements saccadés comme sous le tiraillement de fils invisibles. « Nous pouvons faire passer le courant dans toute cette bande de plancher, » glapit le directeur en guise d'explication. « Mais cela suffit, » dit-il, comme signala l'infirmière. Les explosions cessèrent, les sonneries s'arrêtèrent, le hurlement de la sirène s'amortit, descendant de ton en ton jusqu'au silence. Les corps raidis et contractés se détendirent, et ce qui avait été les sanglots et les abois de fous furieux en herbe se répandit de nouveau en hurlements normaux de terreur ordinaire. « Offrez-leur encore une fois les fleurs et les livres !» Les infirmières obéirent, mais à l'approche des roses, à la simple vue de ces images gaiement coloriées du minet, du cocorico et du mouton noir qui fait baie, les enfants se reculèrent avec horreur. Leurs hurlements s'accrurent soudain en intensité. « Observez !» dit triomphalement le directeur. « Observez !» Les livres et les bruits intenses, les fleurs et les secousses électriques, déjà dans l'esprit de l'enfant, ces couples étaient liés de façon compromettante. Et au bout de 200 répétitions de la même leçon ou d'une autre semblable, ils seraient mariés indissolublement. Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer. Ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs. Des réflexes inaltérablement conditionnés. Ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. Le directeur se tourna vers les infirmières. « Remportez-les !» Toujours hurlant, les bébés en kaki furent chargés sur leurs serveuses et roulés hors de la pièce, laissant derrière eux une odeur de lait aigre et un silence fort bienvenu. L'un des étudiants leva la main, et bien qu'il comprît fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fît indésirablement déconditionner un de leurs réflexes. Cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au Delta l'amour des fleurs ? Patiemment, le DIC donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gamma, les delta, voire les epsilon, à aimer les fleurs. Les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait et de les obliger ainsi à consommer du transport. Et ne consommait-il pas de transport ? Demanda l'étudiant. Si. Et même en assez grande quantité, répondit le DIC, mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes, d'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primes verts et les paysages. Elle fut dûment découverte. Nous conditionnons les masses à détester la campagne, dit le directeur pour conclure, mais simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués, de sorte qu'on consomme des articles manufacturés aussi bien que du transport, d'où ces secousses électriques. Je comprends, dit l'étudiant. Et il resta silencieux, éperdu d'admiration.
Le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai s'est approché. Avons passé dedans vos prés, les avons trouvés bien fumés. Avons passé dedans vos blés, oh comme ils sont tous bien grainés. Mettez la main au nid des œufs, que chaque main en prenne deux. Qui suis le porte-panier, je prendrai bien le nid entier. Sont jolies. Si vous ne voulez rien nous donner, à la porte nous allons crier.
Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance des lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le Dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après 6 jours de travail, il se reposa pour l'éternité. Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique? Les Auvergnats? Les Écossais, ces Auvergnats des îles britanniques? Les Gallegos, ces Auvergnats de l'Espagne? Les Poméraniens, ces Auvergnats de l'Allemagne? Les Chinois, ces Auvergnats de l'Asie? Dans notre société, quelles sont les classes qui aiment le travail pour le travail? Les paysans propriétaires? Les petits bourgeois? Les uns courbés sur leurs terres, les autres à coquiner dans leurs boutiques, se remuent comme la taupe dans sa galerie souterraine et jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature. Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail.
Surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Non, c'est déjà fait.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui,
monsieur. Alors, au boulot et un peu vite!
Les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qu'a. le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ. Ça jordanise quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafraie. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ.
Misérable avortement des principes révolutionnaires de la bourgeoisie. Ô lugubre présent de son Dieu progrès, les philanthropes acclament bienfaiteurs de l'humanité ceux qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres. Mieux vaudrait semer la peste, empoisonner les sources, que diriger une fabrique au milieu d'une population rustique. Introduisez le travail de fabrique et adieu joie, santé, liberté, adieu tout ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue. Et les économistes s'en vont répétant aux ouvriers, travaillez pour augmenter la fortune sociale. Et cependant, un économiste, déçu de Tracy, leur répond, les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise, les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. Et son disciple Cherbulier de continuer, les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire. Mais, assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre « Travaillez !» Travaillez toujours pour créer votre bien-être. Et au nom de la mansuétude chrétienne, un prêtre de l'église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie. Travaillez ! Travaillez nuit et jour ! En travaillant, vous faites croître votre misère. Et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. L'imposition légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Travaillez, travaillez prolétaires pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez pour que devenant plus pauvre, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérable. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Parce que prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme aux vices du travail. Ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur misère, au lieu de courir au grenier à blé et de crier « Nous avons faim et nous voulons manger, vrai !» Nous n'avons pas un rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, c'est nous cependant qui avons moissonné le blé et vendangé le raisin. Au lieu d'assiéger les magasins de M. Bonnet, de Jujurieux, l'inventeur des couvents industriels, et de clamer « M. Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses, elles grelottent sous leurs cotonnades rapetassées à chagriner l'œil d'un juif. Et cependant, ce sont elles qui ont filé et tissé les robes de soie des cocottes de toute la chrétienté. Les pauvresses, travaillant 13 heures par jour, n'avaient pas le temps de songer à la toilette. Maintenant elles chôment, elles peuvent faire du froufrou avec les soieries qu'elles ont ouvrées. Dès qu'elles ont perdu leurs dents de lait, elles se sont dévouées à votre fortune et ont vécu dans l'abstinence. Maintenant, elles ont des loisirs et veulent jouir un peu des fruits de leur travail. Allons, monsieur Bonnet, livrez vos soieries. Monsieur Armel fournira ses mousselines, monsieur Pouillet-Cartier ses calicots, monsieur Pinet ses bottines pour leurs chers petits pieds froids et humides. Vêtues de pieds en cap et fringantes, elles vous feront plaisir à contempler. Allons, pas de tergiversation, vous êtes l'ami de l'humanité, n'est-ce pas? Et chrétien, par-dessus le marché. Mettez à la disposition de vos ouvrières la fortune qu'elles vous ont édifiée avec la chair de leur chair. Vous êtes amis du commerce? Facilitez la circulation des marchandises. Voici des consommateurs tout trouvés. Ouvrez-leur des crédits illimités. Vous êtes bien obligés d'en faire à des négociants que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vous ont rien donné, même pas un verre d'eau. Vos ouvrières s'acquitteront comme elles le pourront. Si au jour de l'échéance, elles gambétisent et laissent protester leur signature, vous les mettrez en faillite. Et si elles n'ont rien à saisir, vous exigerez qu'elles vous paient en prière. Elles vous enverront au paradis, mieux que vos sacs noirs au nez gorgé de tabac. Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers crevant de faim s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier. Avec des figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux, ils assaillent les fabricants. « Bon monsieur Chagot, doux monsieur Schneider, donnez-nous du travail !» Ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente. Et ces misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout, vendent 12 et 14 heures de travail deux fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et les philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché.
I think I need a little
On débutera par la farce électorale. Devant les électeurs, à tête de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois, vêtus en paillasse, danseront la danse des libertés politiques, se torchant la face et la postface avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses, et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple, et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France, et les têtes des électeurs de brère en cœur et solidement. Puis commencera la grande pièce, le vol des biens de la nation. La France capitaliste, énorme femelle velue de la face et chauve du crâne, avachie aux chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints, ensommeillés et bâillants, s'allonge sur un canapé de velours. À ses pieds, le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque, à museau de fouine, à cordienne et main de harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires décharnés, en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassés par des furies les cinglants avec des fouets de la faim, apportent aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. L'Anglois, sa culotte d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le livre du budget entre les dents, se campe à la tête des défenseurs des biens de la nation et monte la garde. Les fardeaux déposés à coups de crosse et de baïonnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques, n'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements. Alors, le tonnerre éclate. La terre s'ébranle et s'entr'ouvre. La fatalité historique surgit. De son pied de fer, elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent et ne peuvent plus fuir. Et de sa large main, elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour, la terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile ? Comme le Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur. Depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leur chair, tenaille leurs nerfs. Depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leur cerveau. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines.
Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Là, toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui? Je bouge, tu dors couché en rond. Je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde-les. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment. C'est pas moi-même. C'est bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, son chien. Pareil qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Eh, tiens, regarde ça. Bah tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de faire.
Thank you.
Ce soir-là, au lieu de me précipiter dehors aussitôt après dîner comme à l'ordinaire, j'allais m'étendre sur le divan dans le noir et m'abandonner à une rêverie profonde. Pourquoi n'essayes-tu pas d'écrire ? Pourquoi n'essayes-tu pas d'écrire ? Cette phrase n'avait cessé de me hanter tout le jour. Revenant d'elle-même avec insistance, me courant même dans la tête pendant que je remerciais mon ami des quelques sous que je lui avais soutirés. Non, sans m'être follement abaissé en flatterie et cajolerie de toutes sortes, ainsi couché dans le noir, je me mis à remonter lentement, laborieusement, jusqu'à mes sources. Et à penser aux jours bienheureux de mon enfance, aux longues journées d'été où ma mère me prenait par la main et cette question sur ce divan, pourquoi n'essayes-tu pas d'écrire ? Souvenirs mêlés de mon présent, de mon passé, à conjuguer dans le présent de ma vie imparfaite. Allez, je me replonge. Je repars avec ma mère, main dans la main, voir mes petits amis, Joey et Tony. Enfant, j'aurais eu bien du mal à comprendre la signification de cette joie secrète que donne le sentiment d'une supériorité. Tu sais, ce sixième sens qui permet de prendre une part active aux choses en même temps que de se voir ainsi participer, me semblait être la qualité la plus normalement partagée au monde. Que tout me fût une joie plus grande qu'aux autres enfants de mon âge, j'en avais pas conscience. L'abîme qui me séparait des autres ne me devint vaguement perceptible qu'au fur et à mesure des années. On me fit sentir que c'était là un défaut, provenant d'une absence totale de sens des responsabilités. Il s'ensuivit une alternance de crises, de dégoût, où je sombrais bien au-dessus du niveau moyen du désespoir. Écrire, ainsi allait ma méditation, doit être un acte dépouillé de toute volonté. Le mot semblable au courant des grands fonds doit remonter à la surface de sa propre impulsion. L'enfant n'a pas besoin d'écrire, il est innocent. Si l'homme écrit, c'est pour vomir le poison qu'il a accumulé en lui du fait de l'erreur foncière qu'il commet dans sa manière de vivre. Il cherche à reconquérir son innocence. Ses écrits n'ont d'autre effet que d'inoculer au monde le virus de ses désillusions. Je pense pas qu'il se trouverait un homme au monde pour noircir une feuille de papier. Si nous avions le courage de vivre, ce en quoi nous avons foi, l'inspiration est déviée. Dans son cours, au sortir de sa source, écrire, 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 si c'est un monde, écrire de vérité, si c'est un monde de beauté, si c'est un monde de magie, écrire, écrire, et nous entendons créer, créer à en crever, écrire, écrire, et crier. Crier la vérité, la réalité du monde. Tranche de cake allongée sur son divan. Rêve de gloire éloignée, de succès, de puissance. Mon cul, Jack. Mon cul, Jack. Les livres sont des actes. La cour que l'écrivain fait parfois à son public est aussi ignominieuse que celle que fait le politicien ou n'importe quelle saltimbanque. Écrire, écrire, écrire bien avant dans sa tête que de le produire sur une feuille de papier à noircir, 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 noircir sur les papiers après avoir écrit dans ta tête. Écrire. Écrire. Sa volonté de faire un monde, un lieu où tu puisses vivre en paix avec ton imagination partagée. Le premier mot, tout frémissant, jeté sur le papier, ancré, 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 ancré comme l'ancre d'un bateau au fond de la mer. Ancré, ancré, laissez la liberté, regardez vers le ciel, ancré, écrire, Jack, écrire. Et cette petite phrase, pourquoi n'essaies-tu pas d'écrire ? Ne tarda pas à m'entraîner et m'enfoncer comme toujours dans le marécage désespérant de la pire confusion. Mon ambition était de charmer et non d'asservir. Écrire, écrire, ne tarda pas à m'entraîner, comme toujours, dans le marécage désespérant de la pire confusion. Il ne me restait plus qu'à libérer d'un coup mon imagination pour tenter d'en délivrer une part de l'humanité, partager ainsi, parce que sans l'aide du monde entier, sans un monde où l'unité de l'imagination soit réalisée, le libre exercice de l'image devient un vice. Je n'avais pas plus de respect pour l'art d'écrire que pour Dieu. Nul être, nul principe, nulle idée n'est valide en soi, n'a de validité que cette partie du réel, Dieu inclus. Les gens se soucient toujours du sort qui est l'apanage du génie. Ça, c'est le cadet de mes soucis. J'ai toujours réservé mes soucis et mon intérêt à ceux qui ne sont rien ni personne, à celui qui est perdu dans le grand piétinement qui est si moyen, si ordinaire qu'on ne remarque même pas sa présence, écrire pour les invisibles. Alors, à cette question, pourquoi tu n'écris pas encore ? J'ai répondu, j'écris dans ma tête, j'écris déjà dans ma tête, j'écris mes cris. Peut-être un jour, je noircirai la feuille de papier, juste pour partager. couche toujours très tôt et fourbu. Cependant, on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée. Possible qu'on ne relève rien. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je puisse tenir bon ainsi jusqu'au soir et que je ne sois pas obligé d'aller me coucher dès les 4 heures de l'après-midi. Ce qui me fatigue ainsi, ce sont mes interventions continuelles. J'ai déjà dit que dans la rue, je me battais avec tout le monde. Je gifle l'un, je prends les seins aux femmes et me servant de mon pied comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du métropolitain. Quant aux livres, ils me harassent par-dessus tout. Je ne laisse pas un mot dans son sens, ni même dans sa forme. Je l'attrape et après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur. Dans un chapitre, vous avez tout de suite des milliers de phrases et il faut que je les sabote toutes. Cela m'est nécessaire. Parfois, certains mots restent comme des tours. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises et déjà bien avant dans mes dévastations, tout à coup, au détour d'une idée, je revois cette tour. Je ne l'avais donc pas assez abattue. Je dois revenir en arrière et lui trouver son poison et je passe ainsi un temps interminable et le livre lu en entier, je me lamente. Car je n'ai rien compris. Naturellement. N'ai pu me grossir de rien. Je reste maigre et sec. Je pensais, n'est-ce pas, que quand j'aurai tout détruit, j'aurai de l'équilibre. Possible. Mais cela tarde. Cela tarde. Alors j'ai des occupations. Je peux rarement voir quelqu'un sans me mettre à le battre et à le cogner. D'autres préfèrent le monologue intérieur, moi non, j'aime mieux me battre. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi et paf, au restaurant, plaf, une patate. Ah, et ça part. Ils ont décidé de manger et moi j'ai pas envie. Tiens, en voici un, je te l'agrippe et toc, je te l'agrippe et tac. Je le prends au porte-manteau, je le pends, je le décroche, je le prends, je le reprends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse et je l'étouffe, je le salis, je l'inonde, il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Alors, je le masse, je le serre, je le résume et l'introduis dans mon verre. Et jette ostensiblement le contenu par terre et dit au garçon « Mettez-moi donc un verre plus propre. » Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition et je m'en vais. Égare à celui qui me regarde de travers. Parce que moi, ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est la simplicité. Ce qui a manqué surtout à ma vie jusqu'à présent, c'est la simplicité. Je commence à changer petit à petit. Par exemple, maintenant je sors toujours avec mon lit. Et quand une femme me plaît, je la prends et couche avec aussitôt. C'est plus simple. Si ses oreilles sont laides et grandes ou son nez, je les lui enlève avec ses vêtements et les mets sous le lit. Qu'elle retrouve en partant. Je ne garde que ce qui me plaît. Si ces dessous gagneraient à être changés, je les change aussitôt. Ce sera mon cadeau. Si cependant, je vois une autre femme plus plaisante qui passe, je m'excuse auprès de la première et la fais disparaître immédiatement. la simplicité. Des personnes qui me connaissent prétendent que je ne suis pas capable de faire ce que je dis là. Que je n'ai pas assez de tempérament. Bah, je le croyais aussi. Mais cela venait de ce que je faisais pas tout comme il me plaisait. Maintenant, j'ai toujours de bonnes après-midi. Parce que le matin, je travaille. Je travaille enfin. La simplicité, la logique, l'équilibre, l'harmonie. Le meilleur de l'art d'écrire, ce n'est pas le mal réel qu'on se donne pour accoler le mot au mot, pour entasser brique sur brique. Ce sont les préliminaires. Le travail, à la bêche que l'on fait en silence, en toutes circonstances, que ce soit dans le rêve ou à l'état de veille. Bref, la période de gestation. Personne n'a jamais réussi à jeter sur le papier ce qu'il avait primitivement l'intention de dire. La création originale, qui est continue, que l'on écrive ou non, participe du flux élémentaire. Elle s'inscrit hors de toute dimension, de toute forme, de toute durée. Dans cet état préliminaire, qui est création et non naissance, les éléments qui sont appelés à disparaître ne sont pas détruits pour autant. Un principe qui se trouvait déjà être présent, marqué du sceau de l'impérissable. Par exemple, la mémoire, la matière, Dieu, surgit à l'appel. Et l'être s'y précipite comme le fétu de paille dans le torrent. Mots, phrases, idées. Si subtil et ingénieux soit-il, coup d'aile, les plus forcenés de la poésie, rêves les plus profonds, visions les plus hallucinantes, ne sont qu'hiéroglyphes grossiers, gravés par la douleur et la souffrance en commémoration d'un événement qui demeure intransmissible. Dans un monde suffisamment ordonné, il serait inutile de faire l'effort déraisonnable de noter de tels hasards miraculeux. Cela n'aurait, à vrai dire, aucun sens. Qui aurait envie de tourner le bouton de la radio pour écouter Beethoven, par exemple, quand il lui suffirait de se tourner vers lui-même pour vivre les extases harmoniques que Beethoven a désespérément tenté d'enregistrer et de noter sur le papier ? Toute grande œuvre d'art, si elle atteint la perfection, sert à nous rappeler mieux, à nous faire rêver. L'intangible éphémère, c'est-à-dire l'univers. Elle ne jaillit pas de l'entendement, on l'y admet ou l'on rejette, admise, elle instille une vie nouvelle. Rejetée, nous en sommes diminués d'autant. Quel que soit son objet, elle ne l'atteint jamais. Alors pourquoi, grand Dieu, tu voudrais que je fasse imprimer ce sacré putain de bouquin? Tout cela, je le pense, je le sais déjà. Perdu dans le souvenir obscur d'une journée d'été, sans avoir maîtrisé, ni tenté de maîtriser, plus ou moins sincèrement, l'art de l'élémentaire hiéroglyphe. Avant même de commencer, j'ai le dégoût de l'effort. Alors, tu sais pas, mon vieux Jack, je m'allonge dans le divan et j'écris dans ma tête. Et j'en ai rien à foutre de ces satanés éditeurs. J'en ai rien à foutre. J'écris dans ma tête. J'écris dans ma tête. J'écris dans ma tête. On voit la cage, on entend voleter, on perçoit le bruit indiscutable du bec s'aiguisant contre les barreaux. Mais d'oiseaux, point. Nous sommes au pays de la magie. C'est dans une de ces cages vides que j'entendis la plus intense crierie de perruche de ma vie. On n'en voyait, bien entendu, aucune. Mais quel bruit! Comme si, dans cette cage, s'en étaient trouvées 3, 4 douzaines. Est-ce qu'elles ne sont pas allées 3 dans cette petite cage? Demandai-je machinalement, mais ajoutant à ma question, à mesure que je l'entendais prononcer, une nuance moqueuse. Si. Si, si, me répondit mon maître fermement. C'est pourquoi elle jacasse tellement. Elle voudrait plus de place. À la réponse de cet imbécile, je me suis décidé à marcher sur les deux rives d'une rivière en même temps. J'ai mis mes jambes d'un côté, ma tête de l'autre. Et comme je passe mon temps à inviter le lecteur à transgresser ce qu'a écrit l'auteur, je viens donc de décider de l'inventer au même moment où je vous parle. C'est une forme de génie, une invitation au génie de l'écriture, de l'invention, de l'improvisation, voire même peut-être d'un contenu quand on sait lire entre les lignes. La poésie, c'est le pays de la magie. C'est là, quand on demande au maître: mais pourquoi ils font tant de bruit dans cette cage? Il me répond: et c'est simplement parce qu'il voudrait plus de place. Et il est content de lui. Il est content de lui, le maître. Alors, je le répète, je marche sur les deux rives d'une rivière en même temps. ma tête d'un côté et mes jambes de l'autre. Et mon maître, ça lui fait peur. Ce qui fait que quand j'arrive en retard au travail, il me dit rien. Il me parle des perruches qui font un bruit pas possible parce qu'elles sont enfermées dans une petite cage. Et quand je lui redemande pour la 101e fois la question « Mais pourquoi crie-t-elle ainsi ?» Il me dit « C'est parce qu'elle voudrait plus de place. » Alors, je m'en vais marcher sur les deux rives d'une rivière en même temps. Assez souvent, l'on voit ainsi un homme étudiant en magie remonter un fleuve, marchant sur l'une et l'autre rive en même temps. Fort préoccupé, il ne vous voit pas, car ce qu'il réalise est délicat et ne souffre aucune distraction. Il se retrouverait bien vite, seul, sur une rive. Et quelle honte alors, la solitude, quelle honte. Vous voyez ces embrasements, charme et effraie, ces montées, ce langage qui paraît fou, et ce feu qui ne cesse jamais. Ou alors, si brusquement, aussi brusquement qu'il était apparu. Remonter les deux rives d'une rivière en même temps.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des textes d'Aldous Huxley, extrait du Meilleur des mondes, de Paul Lafargue, extrait du Droit à la paresse, d'Henry Miller, extrait de la crucifixion en rose, et d'Henri Michaud, extrait de l'espace du dedans. James Fontaine et moi avons lu sur les musiques de Melvin Taylor, sur le hurlement d'un loup, sur la musique des Pink Floyd, sur la musique d'Einstürzend Neubauten, de Jamiroquai, de Malicorn, de Jean Yann. Vous avez entendu un extrait d'Alexandre le Bienheureux et un extrait d'un autre film où Bernard Blier a faisait son discours patronal. Vous avez entendu Louis Jouvet, Michel Simon, qui disait bizarre. Ainsi se termine notre émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous le prochain jeudi de ce mois, le 29. Le 29 juin exactement, pour des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Même heure, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.
Et cette émission est dédicacée à Madame Vincente de la part de Monsieur Christophe Beck qui nous fait la technique ce soir.
Merci James.
Merci Nathalie.